prions Marie, notre maman du ciel, et puis c'est bien la reine de l'île Bouchard, donc on va lui demander de préparer, d'ouvrir nos cœurs, hein, et en pensant aussi à cet ange Gabriel qui l'accompagne. Voilà. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre Dame de la prière, apprenez-nous à prier. Saint Gabriel Archange, veillez sur nous. Bon, alors je me prépare à une lourde tâche, qui est d'essayer avec vous de réfléchir à cette présence de l'ange Gabriel à l'île Bouchard. Alors, je crois pouvoir dire que tous ceux qui découvrent les événements de l'île Bouchard, il y en a peut-être parmi nous aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois? Voilà, très bien. Alors, bienvenue, particulièrement pour vous, voilà. Alors, tous ceux qui découvrent ces événements sont frappés par beaucoup de choses, hein, mais en particulier sont frappés par la présence de l'ange Gabriel, hein, auprès de la Vierge Marie pendant les 7 jours de cette semaine de 1947. Alors, cette présence de l'ange Gabriel, elle n'est pas seulement, je dirais, inhabituelle, elle est tout à fait exceptionnelle. Voilà. Et à notre connaissance, l'ange Gabriel n'a participé à aucune autre apparition dans l'histoire. Hein. Et ça, comme on a bien écouté Monseigneur de Montléon tout à l'heure et pendant son homélie ce matin, il a un petit peu défloré mon introduction, mais c'est pas grave. Hein. On va faire une révision ensemble. Et dans la Bible, la présence de l'ange Gabriel est attestée à 4 reprises. Alors vous allez répondre, bien sûr, quelles sont ces 4 reprises? Alors, l'Annonciation, ça évidemment, vous avez bon, hein. Effectivement, on pense tout de suite à Nazareth lors de l'Annonciation, c'est normal, vous savez, en Luc 1, 26, je vous fais les citations, justement pour que vous les ayez en tête. L'ange Gabriel, c'est bien précisé, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Donc, Nazareth, autre endroit. Alors Zacharie, il est où? C'est où? Et le temple, il est où? Jérusalem, voilà. Donc, il y a effectivement Jérusalem. Là, nous sommes dans Luc 1, 11, donc c'est avant, hein, avant l'Annonciation. Alors lui apparut à Zacharie l'ange du Seigneur debout à droite de l'autel de l'encens. Alors là, c'est l'ange du Seigneur, comme le Seigneur nous l'a dit, on ne sait pas trop qui c'est pour l'instant, mais il va préciser son nom. Cet ange, en effet, va se nommer lui-même. Voilà, alors là, on est au chapitre 1, toujours, verset 19. « Je suis Gabriel qui me tient devant Dieu. » Donc, il se présente à Zacharie et lui dit bien que c'est Gabriel. Alors, avant cela, quand on regarde la Bible, et que vous avez bien écouté, que vous avez bien révisé votre Bible, vous savez que effectivement, l'ange Gabriel va apparaître à Daniel. Alors, il va lui apparaître 2 fois, dans 2 endroits différents. La première fois, c'est à Suse, c'était une des grandes villes de Mésopotamie. Alors, pour situer les choses, historiquement, le prophète Daniel, c'est à peu près moins 165 avant Jésus-Christ. Alors, à Suse, il va expliquer à Daniel la vision du bélier et du bouc. Là, je vais vous renvoyer au texte. Donc, c'est dans Daniel 8, 16. Moi, Daniel, contemplant cette vision, entre parenthèses, n'y comprenant rien, bon, j'en cherchais l'intelligence. Voici, se tenant devant moi, quelqu'un qui avait l'aspect d'un homme. J'entendis une voix d'homme qui criait « Gabriel, donne-lui l'intelligence de cette vision ». Il est là pour vraiment aider Daniel à comprendre ce qu'il voit et ce qui se passe. Voilà. Et puis, donc il va apparaître à Suse, et il va apparaître aussi dans la grande ville du coin. C'est quoi la grande ville du coin de Mésopotamie à l'époque? Babylone. Vous savez bien, Babylone. Donc c'est en Daniel 9:21. Et alors, Daniel dit, « Je parlais encore en prière. » Il parle en prière, c'est formidable ça, hein? Bon. Quand Gabriel, l'être que j'avais vu en vision au début, fondit sur moi en plein vol à l'heure de l'oblation du soir. Vous voyez, alors Gabriel, il fond sur Daniel en plein vol. Vous voyez, c'est même Daniel est étonné, hein? Voilà. Et il vient lui expliquer voilà ce qu'il doit comprendre. Donc, effectivement. Quand on relit l'Écriture sainte, on voit que Gabriel apparaît vraiment de rares fois et en de rares lieux, mais qui sont tous très significatifs. Hein. Suse, Babylone, Jérusalem, Nazareth, et maintenant vous ajoutez l'île Bouchard. Voilà. Vous voyez, ça se compare à ces grandes villes. Bon, alors on peut être un peu surpris, hein, mais enfin c'est comme ça. Et donc à l'île Bouchard, sa présence, vous l'avez entendu dans le témoignage de Jacqueline, hein, et vous le savez sans doute, va particulièrement fasciner la petite Jeannette. Alors, vous savez, c'est la sœur cadette de Jacqueline, c'était la plus petite des quatre fillettes, elle avait 7 ans à l'époque, et vous savez qu'elle va s'exclamer plusieurs fois « Oh, le beau ange !» Et c'est le titre de notre journée, comme vous le savez, « Le beau ange !» Alors, je vous rassure, je n'ai reçu aucune confidence de l'intéressé, hein, dont je vais parler, ou même de la Vierge Marie. Hein. Alors, je vous rassure, mais je vous déçois peut-être, parce que vous auriez été intéressé par le fait que j'ai reçu des confidences. Ben, j'en ai pas eu. Mais quand même, avec vous, je vais essayer de mieux cerner, à défaut de mieux comprendre, hein, les raisons et la signification possible de ce mystère, en quelque sorte, de la présence exceptionnelle de l'ange Gabriel en Touraine, aux côtés de Marie en 1947. Alors, on va le faire en dégageant plusieurs pistes de réflexion que j'ai réparties en 4 parties avant une brève conclusion. Alors, rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Et donc je vais prendre ces parties l'une après l'autre, bien sûr, en vous donnant au début les points d'attention que je vais développer ensuite dans chaque partie. Alors première partie, un compagnon couleur lumière. Voilà. Alors dans cette partie 3 points, on va reparler de l'Annonciation. Vous verrez qu'on en parlera à plusieurs reprises. Hein. Ensuite, on va parler d'un compagnon privilégié de Marie. Et ensuite, on va parler de la couleur lumière. Alors, tout d'abord, la présence constante de l'ange Gabriel au pied de Marie, telle qu'elle a été constatée par les fillettes, et puis telle qu'elle est désormais figurée dans les sculptures que vous trouvez dans l'église, hein, eh bien, cette présence constante désigne l'épisode de l'Annonciation. Tous ceux qui ont un petit peu de culture chrétienne, un minimum, hein, s'ils entrent dans l'église et qu'ils voient cette représentation sans même rien connaître des événements de Bouchard, ça les fait penser à l'Annonciation. Hein. On reconnaît Marie, un ange à côté, une grotte, etc. D'accord ? Alors, cette mise en scène, je l'ai mise entre guillemets hein, dans mon texte, mais cette mise en scène a été voulue par Marie et par Dieu pour associer d'une manière explicite les événements de l'île Bouchard à ceux de Nazareth. Parce qu'après tout, Marie aurait pu se montrer dans des scènes extrêmement différentes, hein, mais il se trouve qu'elle a choisi la scène de l'Annonciation. Alors c'est l'objet d'une autre conférence, mais là on va se concentrer sur l'ange Gabriel. Alors, dans ce dispositif, la présence permanente de l'ange agenouillé auprès de Marie joue un rôle majeur. Parce que, grâce à l'ange qui est là, nous retrouvons l'imagerie traditionnelle de cet épisode, hein, de l'Annonciation, maintes fois représentée par les artistes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien, quand vous irez prier après là, auprès de la grotte, vous regarderez à gauche le vitrail qui se trouve le plus proche de l'autel là, et vous verrez que dans ce vitrail et dans sa partie la plus basse, qui est donc la plus proche du lieu de l'apparition, du lieu physique de l'apparition, vous verrez qu'il y a justement une représentation de l'Annonciation. Et grâce à cette présence de l'ange Gabriel, nous sommes comme transportés à Nazareth, lorsqu'on est quand même à l'île Bouchard devant cette scène, on est comme transportés à Nazareth, et on est comme transformés en spectateurs du mystère de l'Annonciation. Donc, il y a vraiment quelque chose de très profond, de voulu bien sûr, dans ce rapprochement entre les événements de l'île Bouchard et Nazareth et l'Annonciation. Deuxième point dans cette partie, l'ange Gabriel se présente ici comme un compagnon privilégié de Marie. En effet, il va l'accompagner toute la semaine, puisque un des constats, c'est qu'il est tout le temps là, quand Marie apparaît, sans aucune exception, et je pourrais dire sans la lâcher d'une semelle, si vous permettez l'expression. Il est l'escorte céleste de Marie. Et depuis l'Annonciation, on peut penser, alors ça c'est bien sûr une hypothèse, que l'ange Gabriel entretient probablement une relation privilégiée avec Marie. Il ne l'a pas seulement informée à un moment donné du plan du salut et du rôle qu'elle pouvait y jouer, on peut penser qu'il l'a accompagnée depuis l'Annonciation. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu seulement au moment de l'Annonciation et reparti définitivement, mais on peut imaginer que l'ange Gabriel, d'une certaine manière, a veillé sur Marie pendant tout son séjour sur Terre, et qu'au ciel, il est étroitement associé à elle dans sa prière pour nous, pour tous les enfants de la Terre. Voilà. Donc, un rôle de compagnon privilégié de Marie. Troisième point. Alors, l'ange Gabriel se rend visible à l'île Bouchard. Alors, il est visible, mais il ne s'est pas incarné. Je vous précise les choses. Il revêt un aspect humain, avec des ailes même, pour faciliter l'identification de la scène de l'Annonciation par les fillettes. Bon, donc, il a un aspect d'ange, mais bon, c'est un aspect humain quand même, on connaît des traits humains, et il est quand même, bien qu'il ait des traits humains, il est couleur lumière. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est Jacqueline qui l'atteste quand elle parle de l'ange Gabriel et qu'elle le décrit, elle est frappée par sa couleur lumière, ce qui rend bien compte de sa nature purement spirituelle, de son côté immatériel. Et alors, c'est un être spirituel, c'est pas pour autant un fantôme, ou encore moins un démon. Il est bien vivant, donc c'est pas un fantôme, c'est comme Marie, il est bien vivant, et il est lui aussi, comme Marie, serein et souriant pendant toutes les apparitions. Je cite, « Autant cette belle dame faisait une personne vivante de la terre, dit Jacqueline quand elle décrit Marie, autant l'ange, lui, était beaucoup plus lumineux, plus couleur lumière. » Et c'est ainsi que Jacqueline va décrire la scène, vous savez, à la grande fille, là de 15 ans, Sergine, qui ne voit pas l'apparition, mais elle lui décrit ce qu'elle voit. Donc, cette couleur lumière, entre guillemets, est comme un reflet du ciel. Et on peut penser qu'elle traduit en quelque sorte la transparence de la grâce et de la sainteté qui est propre aux bons anges. Et cette couleur lumière va s'opposer aux ténèbres, à l'obscurité de la terre et des âmes, et elle va contraster avec l'atmosphère de ces journées d'hiver sombres et moroses qui étaient celles de toute la semaine de 47. D'accord ? Voilà. C'est comme la lumière au milieu des ténèbres, et Gabriel joue un rôle de ce point de vue-là. Alors, deuxième partie, un nom signifiant. Alors, je vais faire quatre petites remarques, Donc, on va revenir sur le « Je suis l'ange Gabriel ». On va parler du Saint-Esprit. On va parler des fleurs. Et on va parler de la pureté. Bon. Alors, ceux qui connaissent le récit des événements de 47, hein, savent que l'ange, de toute la semaine, ne va parler qu'une seule fois et va prononcer une seule phrase. Qu'est-ce qu'il va dire ? Voilà, j'ai vraiment des très bons élèves là de Marie ici. Je suis l'ange Gabriel. Et en fait, il va parler parce qu'il répond tout simplement à une question posée par Jacqueline à la Vierge Marie, qui lui demande « Madame, quel est l'ange qui vous accompagne ?» Elle ne va pas s'adresser à l'ange, elle s'adresse à Marie pour lui demander. Et vous savez que Marie, à ce moment-là, se tourne vers l'ange, qui se tourne lui-même vers les fillettes, est-il précisé avec un gentil sourire, et il va leur dire « Je suis l'ange Gabriel ». D'accord ? Donc, ça, c'est une phrase d'identification. « Je suis l'ange Gabriel », c'est pour que on sache bien que c'est Gabriel. D'accord ? Et de même, il s'est nommé à la Vierge Marie, hein, puisque quand Marie va raconter le récit d'Annonciation à Saint-Luc, elle va bien préciser que c'est l'ange Gabriel qui est venu la visiter. Et donc, il y a un moment où l'ange s'est présenté aussi à Marie. Alors, c'est pas raconté dans l'Évangile, mais c'est évident, puisque elle le désigne comme étant l'ange Gabriel, hein, sans hésitation. Voilà. Alors, à l'île Bouchard, il n'a en fait rien d'autre à dire, en quelque sorte, que son nom. Voilà. Il ne dira rien d'autre, il ne va dire que son nom. Mais il faut comprendre que ces quelques mots, qui semblent banals, hein, tout simples, vont au-delà d'une simple déclaration d'identité. Alors ça, Monseigneur de Montléon nous a aussi déjà introduit à cet aspect des choses. Le nom Gabriel vient de l'hébreu Gabar, qui veut dire force, ou Gabri, on ne sait pas trop, qui veut dire héros, un héros. Bon. Et la terminaison elle, comme dans Elohim, signifie quant à elle, qu'est-ce qu'elle signifie ? Dieu. Oh, vous êtes de plus en plus fort. Bon. Donc Gabriel, ça veut dire héros ou force de Dieu. Héros de Dieu ou force de Dieu. Alors, vous voyez que avec ce nom, on est bien loin de la représentation un petit peu à l'eau de rose, hein, de l'ange. Et l'ange, il est là avec ses fleurs, tout ça. Il est bon à offrir des lys à la Sainte Vierge, mais il faut réaliser que l'ange qui est là, il s'appelle force de Dieu. Hein. Donc, il s'agit de, en quelque sorte, de la force de Dieu en personne. Hein. Il s'agit d'un héros du ciel et pas seulement d'un angelot comme ça qui est là pour le décor. Il représente bien plus, hein, dans cette à l'Annonciation et puis pour nous ici à l'île Bouchard qu'un simple décorum. Alors, deuxième point dans cette réflexion sur le nom, hein, force de Dieu, eh bien, ça doit vous évoquer ou ça pourrait vous évoquer le début des Actes des Apôtres. Je ne sais pas si vous voyez, bon. Non, vous irez regarder, acte 1, verset 8, où Jésus, à l'ascension, va annoncer à ses disciples qu'ils vont recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur eux à la Pentecôte. Donc, le Saint-Esprit est d'abord défini par Jésus lui-même comme une force. Il a bien des attributs et des caractères, l'Esprit-Saint, mais quand Jésus le présente, je dirais à ses apôtres, quand il en parle, qu'il les avertit de sa venue, il va le... Voilà. L'ange est passé par là pour remettre le fil dans le bon ordre. Voilà. Donc, il va le présenter, l'Esprit-Saint, comme une force. Et de cette manière, on peut dire que Gabriel se trouve comme associé à l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est la force de Dieu. Gabriel, son nom, c'est force de Dieu. Et vous savez que dans la Bible, hein, le nom, c'est pas seulement... voilà, parce que c'est à la mode en ce moment, alors on va s'appeler Arthur, etc. Hein. Le nom caractérise profondément la personne. Hein. Et donc, on est porteur, si vous voulez, à travers son nom, hein, d'une qualité ou d'un, voilà, très importante qui en quelque sorte met en valeur toute la personne. Et donc le fait que Gabriel s'appelle force de Dieu, hein, ça caractérise profondément sa personne. Alors d'une certaine manière, on peut dire que Gabriel est porteur de la force de l'Esprit Saint et il va soutenir la présence de l'Esprit Saint à l'île Bouchard et qui est déjà manifestée. Alors ça, c'est d'autres aspects des apparitions de l'île Bouchard, mais cette présence de l'Esprit Saint est déjà manifestée, bien sûr, par la référence à la scène de l'Annonciation, puisqu'à l'Annonciation, le grand acteur, hein, de tout cet épisode, c'est l'Esprit Saint. Et alors, cette puissance de l'Esprit, on va y revenir un peu plus tard, on la verra rappelée par l'ange, et c'est ça que ça va être un point important, au cours de l'épisode de l'Annonciation lui-même. Alors, autre remarque dans cette deuxième partie, c'est les fleurs. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que l'ange, qui s'appelle Force de Dieu, hein, l'ange Gabriel, hein, il va exprimer cette force en offrant des fleurs. Ça fait étonnant quand on y pense. Hein. C'est les lys qu'il présente, vous voyez la statue, hein, il présente des lys à Marie. Et il n'exprime pas du tout la force par la puissance de l'épée, comme par exemple ce cher Saint-Michel. Saint-Michel, on représente toujours comme avec son armure, son épée, etc. Bon, voilà. Donc, il va exprimer, lui qui s'appelle Force de Dieu, il va exprimer cette force en offrant des fleurs à Marie et en s'agenouillant devant elle. On y reviendra. Hein. Et donc, la force va ici se montrer d'abord sous les signes de la douceur, ça c'est les fleurs, et de l'humilité, c'est l'agenouillement. Hein. Et qui sont, je le rappelle au passage, les caractéristiques mêmes du cœur de Jésus. Car je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. Voilà. Matthieu 11, 29. Et évidemment, douceur et humilité, c'est totalement à rebours, hein, des valeurs du monde et de l'acception qu'on a habituellement du mot force. On n'associe pas du tout habituellement la douceur et l'humilité à la force. Et pourtant, ici, Gabriel, en quelque sorte, voilà, montre que la force peut passer, ou passe préférentiellement, ça je vous laisse juger, par la douceur et l'humilité. Donc on est vraiment dans un autre ordre, hein, que les valeurs du monde. D'accord ? Alors, dernier point, ces fleurs que Gabriel présente, vous savez bien que ce sont des lys. Vous les avez vues représentées, et même, on nous dit bien que ce sont des lys. Hein. Bon. Et vous savez que les lys sont traditionnellement associés à la virginité. Très souvent, Marie est représentée sur les tableaux de la Renaissance, hein, avec un lys ou des lys. Saint Joseph, il a toujours son lys à la main, hein, bien souvent, etc. Donc, c'est l'expression, hein, de la virginité. Alors, d'une certaine manière, les lys qu'offre Gabriel à Marie, ici à l'île Bouchard, sont comme une mise en valeur et un hommage à la virginité de Marie. Et Jacqueline, quand elle décrit le regard de Marie qui l'a beaucoup frappé, hein, vous avez peut-être vu la vidéo là au début de l'après-midi, hein, elle insiste particulièrement, elle dit surtout, hein, une grande pureté dans le regard de Marie. Sa tendresse, sa bonté, etc. Et surtout une grande pureté. Alors, je pense qu'à l'île Bouchard, la valeur de la pureté, qui est tant méprisée aujourd'hui, est comme réaffirmée et mise à l'honneur, en particulier par l'attitude de l'ange Gabriel, hein, et par ses lys qu'il offre. Hein. Pureté des corps, pureté des pensées, pureté du cœur, hein, qui sont si nécessaires à toute vie de sainteté. Ça va ? Vous n'êtes pas complètement endormi ? Bon, alors ça va, j'ai encore deux points, mais oui, ce ne sera pas très long. Alors, la troisième partie, un silence habité. Voilà. Donc là, je vais mettre 5 points. Donc, on va parler de l'agenouillement, on va parler du silence de Gabriel, on va parler de la prière, de l'admiration et du rôle de Gabriel comme témoin. Alors, en effet, Gabriel, de toute la semaine, ne dira donc rien d'autre que son nom, prononcé une seule fois. Le reste du temps, il demeure en silence. Et vous savez que chaque fois que Jacqueline parle de l'ange Gabriel, qu'est-ce qu'il fait? Il est en...
contemplation.
Alors, je cite exactement les mots, parce qu'il ne faut pas se tromper, il n'est pas en adoration. Bon. Il est en admiration et en contemplation devant la Vierge Marie. Jacqueline me corrigera si je dis des bêtises. Hein. Voilà. Et c'est cela que nous relatent les fillettes. Hein. Alors, parmi tous les types de représentations d'annonciation, en peinture, par exemple, si vous pensez à... ça a quand même été une des scènes les plus représentées par la grande peinture. Hein. Donc, c'est celle de l'agenouillement de l'ange qui est privilégiée. Parce que vous avez d'autres, beaucoup de tableaux, qui présentent Marie à genoux, l'ange debout, etc., etc. Et d'ailleurs, le vitrail, toujours mon petit vitrail, qui est à côté de l'autel, hein, et qui est le plus proche de la scène, ça vous montrera Marie à genoux, et l'ange qui déboule du ciel, et puis, chut, il arrive, il est à genoux sur un nuage, hein, mais voilà. C'est, or, ce qu'ont vu les fillettes, ce n'est pas cette représentation-là, hein, c'est le contraire. C'est l'ange qui est à genoux et Marie qui est debout. Alors, vous savez que toute la semaine, les fillettes le verront de profil, comme il vous apparaît quand vous mettez devant les statues, vous voyez de profil l'ange, hein, comme ça qu'il est présenté. Sauf lorsqu'il se tourne vers elles pour leur révéler son nom. Alors, vous savez que Jeannette, qui est, comme je vous l'ai dit, toute fascinée par l'ange, on n'ose pas dire qu'elle est plus fascinée par l'ange que par Marie, mais enfin, on comprend que l'ange l'attire encore plus, elle va dire à sa maman, pleine d'admiration, « Tu sais, maman, à la suite de la révélation de son nom, parce qu'elle s'est tournée vers elle, tu sais, maman, j'ai même vu ses deux œils. » Voilà. Donc, c'est resté célèbre. Il y a le beau ange, mais il y a aussi les deux œils de Gabriel, décrit par Jeannette. Alors, dans donc ce choix qui a été fait de représenter l'Annonciation avec l'ange à genoux et la Vierge debout, ça aurait pu être le contraire en quelque sorte, ou tous les deux debout, comme ça on la voit aussi quelquefois, eh bien je pense que ça rend bien compte de la hiérarchie du ciel, où, comme nous l'a dit Monseigneur de Montléon tout à l'heure, Marie est la reine des anges. Et elle est devenue par grâce la reine des anges. Et donc c'est bien la hiérarchie actuelle. Hein. C'est Marie est d'une certaine manière, si on peut dire, au-dessus des anges. Voilà. Et elle témoigne, je pense que cette position agenouillée, ça témoigne aussi de la grande humilité de l'ange Gabriel. Monseigneur Montléon nous a parlé de l'humilité de Michel. Je pense qu'il y a aussi une grande humilité de l'ange Gabriel. Parce qu'il va se mettre à genoux, hein, devant une créature humaine. Lui qui est un être spirituel, hein, dont on nous a décrit la perfection, hein, totale, si on peut dire, eh bien, il va se mettre à genoux devant Marie. Alors, vous voyez déjà que c'est pour dire, le démon de penser qu'il devait se mettre à genoux devant Jésus, ça le, hein, bon, ça l'a embêté, hein, vous savez, mais on peut aussi penser quand même c'est très beau que Gabriel, lui, hein, la force de Dieu, va se mettre à genoux devant une jeune fille, hein, voilà, une créature humaine. Lui, c'est une créature spirituelle, mais il va être, en quelque sorte se subordonner, hein, à la Vierge Marie. Bon, deuxième point dans ce silence habité, c'est effectivement le silence de Gabriel. Il est en lui-même significatif. Alors, vous savez, il y a d'autres grands silencieux dans la Bible. Alors, le roi, si je peux dire, c'est Saint Joseph, parce qu'on n'a aucune parole de lui, vous le savez bien. Et puis, Marie, c'est quand même pas une bavarde impénitente. Hein. On peut pas dire qu'elle a donné beaucoup de paroles, mais enfin, elles sont essentielles. Alors, c'est comme pour Joseph et pour Marie, en quelque sorte. Le silence de Gabriel, il ne parle pas, Mais ce n'est pas du tout un vide ou une absence. C'est que l'admiration et les contemplations dans laquelle il se trouve... Reviens.
C'est signe qu'il faut faire une pause.
Il me coupe.